Et si on entend, qu'on entende comme si c'était nouveau, et qu'on n'attende pas avec familiarité, mais qu'on puisse écouter avec une oreille fraîche, Seigneur Dieu, de réapprendre ou de mieux apprendre ou de mieux connaître et de mieux appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Merci pour Pasteur Patrice qui a accepté d'être là ce soir, et je te demande d'être avec lui et avec nous durant ce message. Donc, bénis les enfants et bénis-nous aussi qui sommes assis pour écouter. Au nom de Jésus, amen. Pasteur Patrice, c'est à toi. Les enfants peuvent aller à l'éducation chrétienne. Est-ce qu'on a des annonces qu'on voudrait faire, Marie-Ève? Non? OK.
Bonjour. Comment allez-vous ce soir?
Bien.
Amen. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre... Attendez un petit peu, là. 3, c'est-à-dire... On va lire à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Et ainsi de suite. Je veux me concentrer sur plusieurs petites choses dans ce texte-là pour, en guise d'introduction de mon message. Mais avez-vous remarqué les trois questions que Dieu va poser à l'être humain suite à la chute? Premièrement, il va demander, et c'est comme s'il va par l'ordre inverse de ce qui s'est passé. Il va commencer en demandant à l'homme « Où es-tu? » parce que l'homme s'est caché de Dieu. Ensuite, il va le demander à l'homme « Qui t'a appris? » Puis, la troisième question, « M'as-tu désobéi? » C'est ce qui s'est passé par ordre inverse. L'être humain a désobéi, il a appris, et il s'est caché. Et c'est un peu nous, quand même. Parce que souvent, on va prêter l'oreille. On va prêter l'oreille pour apprendre. Et souvent, la question est de qui est-ce qu'on veut apprendre? Qui va être notre instructeur? Qui va être notre enseignant? Dans la vie du croyant, au sein de l'Église, à travers les siècles, il y a eu trois sources d'où les chrétiens pouvaient apprendre. La source principale, la plus importante, celle qui est l'autorité au-dessus de toute autorité, c'est les Écritures, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un des cris de la Réforme, c'était, en latin, l'Écriture seule, sola scriptura. Pourquoi? Parce que l'Écriture offrait aux chrétiens la seule source d'autorité qui, lorsque elle parlait, lorsque elle déclarait quelque chose, les autres sources d'autorité devaient se taire. Les autres sources d'information devaient se taire. Évidemment, ce n'est pas la seule source d'information, ni la seule source d'autorité. Il y en a d'autres. Mais lorsque la Bible parle, les autres doivent se taire. Parce qu'elle a le dernier mot. Pourquoi? Parce que Dieu a le dernier mot sur les choses. Maintenant, il y a d'autres sources d'autorité. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu également la tradition. Et souvent, les chrétiens évangéliques ont une très mauvaise perception de ce qu'est la tradition. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, dans l'Écriture, on voit Jésus qui va s'attaquer aux traditions. Dans Marc 7, entre autres, Jésus va dire que les pharisiens, que les gens vont désobéir à Dieu pour obéir à leur tradition. Mais, dans 1 Corinthiens 11, tournez avec moi, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11. Quand Jésus va parler aux pharisiens, aux scribes, aux juifs de l'époque, le mot pour tradition qu'il va utiliser, c'est le mot paradosis. Merci beaucoup. Le mot paradosis. Et on le voit ici dans 11.2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Le mot ici pour instruction, ce n'est pas le mot habituel pour instruction, c'est le mot pour tradition, paradosis. Tel que je vous les ai transmis, et c'est le verbe pour tradition. Parce que, même à l'époque de Paul, et quelques chapitres plus loin, au chapitre 15.1, verset 1 à 3, 15, verset 1 à 3, Paul va dire, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Le verbe pour recevoir ici, c'est un verbe qui est utilisé quand ailleurs, pour quand les gens reçoivent une tradition. Parce que Paul avait reçu la tradition, l'enseignement, ou ce qui était déjà un credo à l'époque de Paul, dans l'Église, ce qui est écrit là pour l'Évangile, la base, le fondement de l'Évangile. Déjà, c'était devenu une tradition, mais une saine tradition. Parce qu'il y a des mauvaises traditions. On voit ça dans Colossiens, on voit ça partout dans les Évangiles, où est-ce que lorsque la tradition va à l'encontre de la parole de Dieu, ben, il n'y a même pas de choix à faire. On choisit la parole. Par contre, ce n'est pas tout ce qui est traditionnel qui est mauvais. Ce qui est traditionnel, qui est contre la parole de Dieu, est mauvais, doit être écarté. Il y a plein de passages dans la parole où est-ce qu'on voit justement une saine tradition. D'ailleurs, dans Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2.15, 2 Thessaloniciens 2.15, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Dans 3.6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les traditions que vous avez reçues. Littéralement. Donc, les Écritures sont une source d'information, une source d'autorité. La tradition, elle est aussi. C'est pour ça que dans les premiers siècles de l'Église, on voit comme les premiers conciles, où est-ce qu'ils vont vraiment ancrer des doctrines importantes sur la personne de Jésus-Christ, sur la Trinité, sur des choses qui doivent être respectées jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que si ces choses-là contredisent la parole de Dieu, est-ce qu'on a un choix à faire? Je vous l'ai dit tantôt, il n'y a même pas de choix à faire. C'est les Écritures. Quand la parole parle, quand les Écritures parlent, les autres doivent se taire. Sinon, la tradition est saine. L'autre moyen, l'autre source de savoir, d'autorité que le chrétien peut consulter ou peut avoir, mais c'est évidemment la raison. Dieu a donné un cerveau, il dit, viens, raisonnons ensemble. Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils vont devenir blancs comme neige. Raisonnons. Il y a une place à une saine raison, et dans l'histoire de l'Église, la raison a eu un grand rôle à jouer dans le christianisme. Un bon rôle à jouer. Souvent, il y a eu des écarts, ça a fait naufrage. Mais encore une fois, comme pour la tradition, si les Écritures parlent, bien, la raison doit se taire. Mais par contre, Dieu est vrai. tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu dit est vrai. Donc, puisque tout ce que Dieu dit est vrai, et puisque la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, donc tout ce que la Bible dit est vrai, il n'y a rien de contradictoire dans la parole de Dieu. Donc, la raison va pouvoir, toujours pouvoir être d'accord. Il n'y aura jamais de contradiction dans les Écritures. Troisième, c'est la raison. Quatrièmement, il y a l'expérience. Notre expérience personnelle, l'expérience des autres. Hein? Souvent, l'expérience a été mise de côté. Pourtant, c'est une source. Hein? Si, et Paul lui-même va le dire dans Romains chapitre 5, à partir du verset 3, si je me souviens bien, tournons là. Romains chapitre 5. Paul va parler de l'expérience comme étant un aspect important même dans la vie du croyant. Il dit, bien plus nous glorifions même des afflictions. C'est une expérience qui peut être difficile dans la vie, c'est les afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, quand tu persévères dans l'affliction, cette persévérance-là, parce que tu persévères, va te donner une victoire parce que Dieu va intervenir. Et cette victoire-là te donne l'espérance parce que tu sais que la prochaine fois que l'affliction va venir dans ta vie, tu as l'espérance que tu as déjà vécu la délivrance. Donc, tu sais que Dieu n'est pas, comme on disait dans les prières tout à l'heure, pas en retard. Mais si on a l'impression que Dieu est en retard, c'est parce qu'on s'attend à ce qui arrive de bonne heure. Quand je prenais souvent l'autobus, je savais que l'autobus se présentait à 10, ben je ne me présentais pas à 8 heures. Ben j'allais attendre 10 minutes. Je me présentais à l'heure qu'elle est arrivée. Donc, l'expérience est une autre source hein, de savoir, d'autorité dans notre vie. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Il y a quelque chose d'important dans nos vies qu'on oublie. Et ce qu'on oublie, c'est ce dans quoi on baigne. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la question, est-ce que les poissons savent s'ils sont mouillés? Est-ce qu'un poisson sait qu'il est mouillé? Probablement pas, il baigne dans l'eau. Comme moi, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mouillé. Okay. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire pour mouillé pour l'air. Là, je suis aéré. Est-ce que je sais que je suis aéré? Peut-être qu'un poisson, quand il me voit, qu'il me touche, il dit « Ah, wesh, il est tout aéré. » Ouais, c'est ça, sec. Parce que je sais que je suis sec, je le sais quand je suis mouillé. En tout cas, ma femme aussi, hier, elle me disait « Matrice, tasse-toi, t'es tout collant. » On vient du Nord, on n'est pas habitué à de la chaleur. Là. Déjà, 20 degrés, c'est chaud en crime ici. Mais, donc, on baigne dans quelque chose et on n'a pas nécessairement conscience de ça. Et c'est Et je veux parler de la culture. Et là, quand je parle de culture, je ne vous parle pas de la culture générale qu'une personne a, la connaissance qu'elle a sur les arts, la science. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je parle de la culture, je parle de la vision du monde, les croyances, les valeurs, les goûts d'un groupe de personnes plus ou moins grand. Les actions que ces gens-là vont faire, les artefacts qu'ils vont produire. Est-ce que vous savez, c'est quoi un artefact? Un artefact, c'est tout ce qui est produit par une culture en termes d'objets, d'art ou d'outils ou de moyens d'arriver à une fin technologique. Ça ici, c'est un artefact. Ça, c'est un artefact. Ça a été produit dans un contexte donné par une culture donnée pour un but donné. Dans la culture, il y a donc une vision du monde au cœur, au central, au cœur de la culture, qui va influencer les croyances de ce qu'on croit être vrai, ce qu'on croit être faux, qui va influencer des valeurs, ce qu'on croit être bien, ce qu'on croit être mal, qui va influencer nos goûts, ce qu'on croit être beau, ce qu'on croit être laid, qui va influencer nos actions, puis qui va influencer nos artefacts. Je suis sûr que la personne qui a construit ça avait le goût, hein, ça rencontrait ses goûts de faire la couleur, la forme, tout ça. Sa culture a un impact sur comment elle a conçu le meuble ici. Elle a produit, la personne est le fruit, entre guillemets, de sa culture. Elle a produit un artefact, qui est celui-ci, qui sert de podium ou de pupitre lors d'une prédication. Okay? D'ailleurs, les cultures évoluent jusqu'à un certain point. Dans plusieurs églises américaines, par exemple, on a fait disparaître le pupitre pour mettre à la place un truc de fibre de glace, de fibre de verre, ou transparent, ou plus du tout, dépendamment des cultures à laquelle le groupe d'église appartient, il se laisse plus ou moins influencer par la culture environnante. Et c'est là qui est intéressant. Qui t'a appris? Parce que le poisson, c'est pas qu'il est mouillé. On ne prend pas conscience de notre propre culture. Et trop souvent, on prend pour acquis que nos croyances sont bonnes quand peut-être elles ne sont qu'issues de notre culture. On croit que nos valeurs sont les bonnes, mais peut-être qu'on a fait juste absorber les valeurs de la culture à laquelle on appartient. Les goûts. Pourquoi j'aime telle musique, telle ou telle musique? C'est le fruit d'une évolution culturelle. Prenez une musique heavy metal de la fin du 20e siècle, transportez ça, je ne sais pas moi, au 15e siècle en Europe, faites jouer ça, vous faites brûler sur le champ tout de suite. Hein, ça n'a aucun sens, ce bruit-là. C'est le fruit d'une culture. C'est un artefact, la musique. C'est un objet d'art qui représente, qui est le fruit d'une culture. C'est pour ça qu'en passant, la musique peut être plus ou moins bonne, culturellement, parce que qu'est-ce qui a produit la culture? Est-ce que la culture, est-ce que les croyances, les valeurs, les goûts, parce que les croyances ont une influence sur les valeurs vont avoir une influence sur les goûts vont avoir une influence sur les actions, et les actions vont avoir une influence, donc vont produire des artefacts ou des œuvres d'art, ou ainsi de suite. Est-ce que la culture en tant que telle, est-ce qu'elle dérive ses croyances de quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu ou quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu? Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la culture à laquelle on appartient, nous, en tant que croyants, on est, premièrement, notre première naissance, on est engendré dans un contexte culturel. Pour la plupart d'entre nous, c'est le Québec du 20e siècle. Pour la plupart. D'autres, c'était le Liban du 20e siècle. D'autres, c'était un pays hispanophone? Le Mexique. Bon, alors, chaque pays a sa culture. Et on est dans cette culture-là, et on va grandir, et on va être éduqué dans les croyances, les valeurs, les goûts de notre pays, de notre contexte culturel. Je travaille dans un contexte qui est autochtone. Et donc, je rencontre souvent des contextes, des aspects culturels qui sont propres à donc des croyances, des valeurs, des goûts qui sont propres aux autochtones, que je ne partage pas nécessairement. Certaines que je partage, d'autres que non. Donc, la culture a un impact. Pourquoi? Parce que j'absorbe des croyances, des valeurs, des goûts. Et mais là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quatre sources d'autorité. Que le croyant devait avoir, et la première, la seule à pouvoir parler et que les autres se taisent, c'était la parole de Dieu, les Écritures, sola scriptura. Mais quand la Bible me propose une croyance, une vérité, une connaissance, c'est quoi la définition habituelle de la connaissance? Une connaissance, c'est une croyance vraie qui est justifiée. Quand je connais quelque chose, ça veut dire que la connaissance, cette croyance-là, elle est vraie. Je crois que c'est vrai, donc c'est une croyance. Cette croyance-là, elle est vraie, donc je ne suis pas en train de me gourer. Puis, troisièmement, elle est justifiée, ça veut dire que j'ai des bonnes raisons de croire ce que je crois. Sinon, c'est juste par pure chance que je crois quelque chose qui est vrai. Une connaissance, ça veut dire que j'ai appris quelque chose qui était vrai, c'est par définition, c'est une croyance, parce que je la crois, qui est vraie, qui est justifiée, que j'ai des bonnes raisons. Donc, la Bible me propose une vérité. Elle ne ment pas. Elle ne se trompe pas. Elle me propose une vérité qui touche les croyances, les valeurs, les goûts. Moi, je suis issu d'une culture qui a des croyances, qui a des valeurs, qui a des goûts. Et là, il y a une confrontation de croyances, il y a une confrontation de valeurs, il y a une confrontation de goûts. là, il va se passer quelque chose. Soit que je vais me ranger du côté de ma culture et juger ce que l'Écriture me propose, ou je vais me ranger du côté des Écritures et je vais juger ce que la culture me propose. C'est l'un ou c'est l'autre. S'il y a un conflit. Hein, si les deux sont d'accord, pas de conflit, je ne vais pas me ranger, je ne vais pas en prendre de parti parce que les deux sont d'accord. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça fait du sens? OK. Donc, je suis continuellement mis en demeure par Dieu de juger la culture dans laquelle je me trouve. Ça, ce n'est pas agréable. Parce que je suis issu de cette culture-là, donc je dois me juger moi-même. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 11 et ailleurs, va dire « Jugez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Si vous vous étiez jugé vous-même, ça ne serait pas arrivé. On doit s'imposer un jugement de nous-mêmes pour voir si ce qu'on fait, si ce qu'on croit, si nos valeurs, nos goûts sont oui ou non, scripturaires ou pas. Est-ce que vous me suivez? OK. On peut, par exemple, arriver au chapitre 4 que j'ai lu tout à l'heure de la Genèse, ou chapitre 3, puis dire, bien, écoute, ça n'a pas de bon sens ce qui est écrit là. Et commencer en fonction de mes croyances, de mes valeurs, de mes goûts, juger ce qui est écrit là, parce que moi, je ne sais pas moi, ça ne correspond pas à ce que je pensais des choses. Alors, on est mis en demeure de toujours mettre de côté ce qu'on croit, remettre en question ce que je crois parce que j'habite dans un contexte culturel particulier, pour me soumettre à ce que la parole de Dieu enseigne. Et ça, c'est pas facile. Parce que ça prend une décision de dire, de quoi je vais vivre? Est-ce que, Matthieu 4,4, je vais vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Est-ce que je vais m'efforcer dans 2 Timothée 2,15 de vivre comme un homme éprouvé qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité? Est-ce que je crois que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour m'enseigner, pour me convaincre, m'instruire dans la justice? 2 Timothée 3,16. Est-ce que je vais me laisser enseigner? Est-ce que je vais me laisser juger? Écoutez, tournez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Et au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Kritikos dans le cœur. Elle critique mes sentiments et les pensées de mon cœur. Hey, les émotions ne touchent pas à ça, par exemple. Je ressens ce que je sens. Tu n'as pas le droit de venir critiquer, juger mes émotions. La parole de Dieu, elle critique tes sentiments. Elle critique les pensées de ton cœur. Et j'ai le choix, soit de me ranger avec ma culture pour dire « ça n'a pas de bon sens » ou me ranger du côté des Écritures pour dire « hey, oui, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. » Et accepter le jugement que Dieu donne de la chose. Et non pas que j'aimerais. Parce qu'oubliez pas, les trois questions que Dieu a posées à Adam. Où es-tu? Qui t'a appris? M'as-tu désobéi? Souvent, quand on refuse la critique que la parole de Dieu veut faire, c'est parce qu'on a désobéi, ça ne nous tente pas de se nous remettre en question. On ne veut pas revenir en arrière. On aime la désobéissance, on aime vivre comme on vit et on refuse le jugement de Dieu sur notre vie parce qu'on préfère vivre dans les ténèbres et vivre dans la désobéissance. C'est pour ça que dans Jean, vers chapitre 1, à partir du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et un petit peu plus loin, ça dit verset 11, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et attends, c'est pas là que je cherchais. Vas-y, lis-moi dans ça. Merci. Jean 3:20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, voyez-vous comment c'est important? Comment est-ce que notre qui on est, ce qu'on fait, comment on réagit à la parole de Dieu en termes des quatre sources d'autorité et la principale, la seule qui a le droit de parler et d'imposer le silence aux autres, donc la parole de Dieu, les Écritures. Comment c'est important de dire, « Hey, quand la Bible parle, c'est Dieu qui me parle. Et est-ce que je vais juger Dieu ou est-ce que je vais me laisser juger par Dieu? » Parce que quiconque juge la loi dans Jacques 4:22 n'est pas quelqu'un qui va obéir à la loi, mais devient critique de la loi, juge Dieu lui-même. Mais dans Jacques 1:22, J'ai-tu dit 4:22 ou 4:11 en tout dans Jacques? C'est 4:11, je pense. Puis c'est Jacques 1:22. Ouais, pour être un auditeur oublié exactement. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'une des sources était la raison, c'est très facile, très facile. Je suis le premier à le faire régulièrement, à me tromper moi-même par de faux raisonnements. Pourquoi? Parce que je ne veux pas écouter la parole. Je ne veux pas écouter ce qu'elle a à me dire. Fait que pour ne pas écouter, pour avoir de bonnes raisons, je deviens une critique de la parole plutôt que de la laisser me critiquer. Donc, tout ce qu'on a parlé ce soir, tout ce qu'on a dit sur la parole de Dieu, revient à une chose. Et avec la série de messages que Pasteur Jean-Sébastien a fait, et avec tout ce qu'on entend sur l'importance de la parole de Dieu, sur la vérité, sur la fiabilité de la parole de Dieu, sur le fait que la parole de Dieu est inspirée et utile. Tout ce que la parole de Dieu dit, tout ce que la parole de Dieu est, et comment est-ce qu'elle est la manifestation de ce que Dieu pense, et en passant, la révélation des Écritures, il y a aussi la révélation dans la nature. Dans les psaumes, on voit que Dieu parle de la tempête, parle du tonnerre. Je suis sûr que Doum-Doum n'aimerait pas s'entendre ça, là, mais le chien de Pasteur Jean-Sébastien, il tremble quand il y a un orage. Peut-être qu'il a peur de Dieu. Peut-être qu'il se met en règle. Non. Mais on peut voir dans l'orage une théophanie. On peut rencontrer Dieu, mais cette rencontre-là, elle est très superficielle. Alors que quand on rencontre Dieu par l'entremise de ce que Dieu dit clairement dans les Écritures, là, c'est une rencontre qui frappe dans le cœur. Parce que la parole nous critique nos sentiments, critique nos pensées. Ça frappe proche de nous-mêmes. Quand on est en nature et qu'on rencontre Dieu dans la révélation naturelle qui est accessible à tous les hommes, c'est extraordinaire. Ce n'est pas une rencontre moindre avec Dieu, c'est une rencontre avec Dieu. Dans Romains 1, 20, ça dit que les hommes qui rejettent Dieu connaissent Dieu par la révélation naturelle. Il y a gnosko, il y a une connaissance de Dieu, une vraie connaissance de Dieu, mais ils rejettent cette connaissance-là. Ils disent non. Mais ce qu'on fait avec la révélation, ce que ces hommes-là font avec la révélation naturelle, nous, on peut le faire avec la révélation des Écritures en disant non. Je ne me laisse pas juger par l'Écriture. Je ne me laisse pas critiquer par ce que la Bible dit. Au contraire, je vais critiquer, je vais juger et je vais utiliser la Bible comme un buffet chinois en prenant ce qui me tente et en rejetant ce qui ne me tente pas. Non. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Toute Écriture est inspirée de Dieu utile. Pas juste ce qui me tente. Pas juste ce qui fait mon affaire. Surtout aujourd'hui, au Québec du 21e siècle, où est-ce que tout peut aller? Tout va. Et est-ce que dans les comportements, dans les manières de penser, dans la sexualité, dans tout ça, est-ce que je vais laisser la parole me juger ou est-ce que je vais juger la parole indigne de la suivre, de lui obéir? Je dis, Dieu, t'es dépassé, Dieu, regarde là, ce qu'ils font aujourd'hui. Plutôt que passer à la scène dans l'église, il faudrait passer les capotes. Ce serait plus à la page. T'assurer que personne n'attrape des maladies transmises sexuellement. J'avais failli dire le vieux mot pour ça. Non, c'est ça. On n'est pas. Dieu ne change pas. Les critères, les caractéristiques de Dieu, les valeurs de Dieu ne changent pas. Dieu n'a pas changé d'idée d'un coup parce que, finalement, on arrive au 21e siècle. Il y a d'autres civilisations qui ont passé par les mêmes chemins que nous autres, on passe aujourd'hui. Elles sont toutes détruites à cette heure. Parce que Dieu a jugé la civilisation, il l'a détruite, elle a passé par le même chemin, le même libertinage de demander, Dieu dit, ça suffit, on écrase. Et on recommence. Et à moins que Dieu ne revienne, il va se passer la même chose avec la nôtre, cette civilisation. On arrive à la fin d'un processus, d'une évolution normale dans une société, dans une civilisation. La civilisation passe parce que les gens ont une certaine moralité. Tranquillement, il y a de plus en plus de libertinage sexuel, de plus en plus de toutes sortes de choses sexuelles. Et là, à un moment donné, la civilisation s'écrase. C'est ce qui s'est passé avec l'Empire romain. C'est ce qui s'est passé avec les différents empires avant nous, avec les différentes civilisations. Il y avait un historien russe, dont j'oublie le nom, qui avait répertorié 19 sociétés, 19 civilisations, qui ont toutes ou à peu près toutes passé par le même cheminement, le même déclin, avec à peu près les mêmes jalons au fur et à mesure. Et vers la fin, c'était ce qu'on voit ici avec le libertinage sexuel. Est-ce que je me laisse juger par les Écritures ou est-ce que je juge les Écritures en disant non, putain, on a été dépassé, Dieu. Donc, se laisser critiquer par la parole de Dieu. Et même s'il y a d'autres sources d'information, d'autres sources d'autorité dans les Écritures, gloire à Dieu. Ça veut dire que l'être humain n'est pas seulement unidimensionnel. Il y a plusieurs dimensions importantes, l'être humain. Et Dieu en tient compte de ces dimensions-là. Mais il nous demande de faire plier nos genoux face à Dieu et de nous laisser critiquer par les Écritures. Amen. Père, Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ta parole ce soir. Merci que tu nous parles, que tu mets en demeure d'obéir à ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen.